Nick Dune. Deux jours après.
Je me suis réveillé sur le lit gigogne de la suite des Elliott, épuisé. Ils avaient insisté pour que je reste dormir. Ma maison ne m'avait pas encore été réouverte. Insisté avec la même urgence qu'ils employaient autrefois à régler l'addition au dîner. Une hospitalité qui ressemble à une force de la nature, pleine de férocité. Tu dois nous laisser faire ça pour toi. Alors je suis resté. J'ai passé la nuit à écouter leur ronflement à travers la porte de la chambre, celui de monsieur, celui de madame, un ronflement régulier et profond, un ronflement chaleureux de bûcheron, l'autre haché et arythmique, comme si la dormeuse rêvait qu'elle était en train de se noyer. J'arrivais toujours à m'éteindre comme une lampe. « Je vais dormir », je disais, les mains jointes sous la joue, et le sommeil profond d'un enfant shooté au Nyquil, tandis que ma femme, insomniaque, s'agitait dans le lit à côté de moi. La nuit dernière, cependant, j'ai eu l'impression d'être comme Amy. Mon cerveau ne voulait pas s'arrêter. Mon corps restait sur le qui-vive. J'étais, la plupart du temps, un homme qui était très bien dans sa peau. Quand on s'installait devant la télé, Amy et moi, je me transformais en cire fondue tandis que ma femme ne cessait de gigoter à côté de moi. Je lui ai demandé une fois si par hasard elle n'avait pas le syndrome des jambes sans repos. Un spot de prévention sur cette maladie passait à l'écran. Le visage des acteurs était plissé de détresse tandis qu'on les voyait remuer leurs mollets et frotter leurs cuisses. Et Amy a répondu « J'ai le syndrome du tout sans repos ». J'ai regardé le plafond de la chambre d'hôtel viré au gris, au rose, puis au jaune, et j'ai fini par me lever pour voir le soleil qui lançait ses rayons criards juste dans ma direction, de l'autre côté du fleuve, une fois de plus, dans une inquisition solaire. Puis les noms sont apparus dans ma cervelle. Bing ! Hilary Handy. Quel nom adorable pour être accusé d'actes si choquants. Desi Collings, anciennement obsédée par Amy, qui vivaient à une heure de chez nous. J'avais affirmé que je m'occuperais de leur cas. Nous vivons à une époque où le système D est roi. Les soins médicaux, l'immobilier, les enquêtes de police. Allez sur Internet et trouvez vous-même la solution, putain. Parce que tout le monde est surchargé de travail et que toutes les administrations manquent de personnel. J'étais journaliste. J'avais passé 10 ans à interroger des gens pour gagner ma vie, à les amener à se découvrir. C'était dans mes cordes. Et Mary Beth et Rand le pensaient, eux aussi. Je leur étais reconnaissant de m'avoir dit que je gardais leur confiance. Moi, le mari, sous son mince nuage de suspicion. Où est-ce que je me racontais des histoires en disant qu'il était mince? Le Days Inn avait mis à notre disposition une salle de bal inutilisée pour tenir lieu de QG au comité pour retrouver Amy Dune. Elle n'était guère présentable. Une salle pleine de taches marron qui sentait le renfermer. Mais juste après l'aube, Mary Beth s'était attelée à lui refaire une beauté. Elle avait passé l'aspirateur et la serpillière, disposé des tableaux d'affichage et des rangées de téléphones, accroché une grande affiche d'Amy sur un mur. L'affiche, avec le regard calme et sûr d'elle d'Amy, ses yeux qui vous suivaient, semblait sortie d'une campagne pour la présidentielle. De fait, une fois que Mary Beth fut terminée, la pièce vibrait d'efficacité. On sentait l'optimisme fervent d'un politicien donné battu dans tous les sondages, entouré par ses fans, refusant de laisser tomber. Juste après 10 heures, Bonnie est arrivée, portable vissé à l'oreille. Elle m'a salué d'une petite tape sur l'épaule et s'est mise à tripoter une imprimante. Les volontaires sont arrivés en bande. Go et une demi-douzaine d'amis de feu notre mère. 5 femmes d'une 40aine d'années, toutes vêtues de pantalons corsaires, comme si elles répétaient un spectacle de danse. 2 d'entre elles, des femmes minces, blondes et bronzées, rivalisaient pour le premier rôle. Les autres se résignaient joyeusement à jouer les utilités. Un groupe bruyant de vieilles dames à cheveux blancs, qui essayaient toutes de parler en même temps, tandis que quelques-unes envoyaient des SMS, le genre de personnes âgées qui possèdent une quantité d'énergie déroutante, une telle vigueur juvénile qu'on est obligé de se demander si elle n'en rajoute pas un chouïa. Un seul homme est venu. Un beau mec d'à peu près mon âge, bien habillé, seul. qui n'a pas semblé s'apercevoir que sa présence requérait quelques explications. J'ai regardé le loup solitaire s'attarder autour des pâtisseries, décochant des regards furtifs à l'affiche d'Amy. Bonnie a terminé l'installation de l'imprimante, a attrapé un muffin à la farine complète et est venue se poster à côté de moi. « Vous gardez un œil sur tous les gens qui se portent volontaires ?» ai-je demandé. « Je veux dire, au cas où ce serait quelqu'un qui... »« Quelqu'un qui semble porter un intérêt suspect à l'affaire ?»« Absolument. » Elle a coupé le rebord du muffin et l'a fourré dans sa bouche. Elle a baissé la voix. « Mais, à dire vrai, les serial killers regardent les mêmes séries télé que nous. Ils savent que nous savons qu'ils aiment... »« S'impliquer dans l'enquête. » »« C'est ça, ouais. Alors ils font plus attention à ce genre de trucs maintenant. » Mais oui, nous examinons tous les individus un peu bizarres pour nous assurer que ce sont seulement, vous savez, des individus un peu bizarres.
J'ai dressé un sourcil.
Par exemple, avec Gilpin, on était chargé de l'enquête sur Kayla Holman il y a quelques années. Vous vous souvenez de Kayla Holman ?
J'ai secoué la tête. Ça ne me disait absolument rien.
Bref, il y a toujours des individus un peu morbides pour être attirés par ce genre de truc. Méfiez-vous de ces deux-là.
Bonnie m'a désigné les deux quadragénaires au physique avantageux.
Parce que ça a l'air d'être le genre, à se préoccuper un peu trop de réconforter le mari inquiet.
Oh, quand même.
Vous seriez étonné. Un beau gosse comme vous, ça arrive.
Juste à ce moment-là, une des femmes, la plus blonde et la plus bronzée, a jeté les yeux sur nous, a cherché mon regard et m'a adressé le plus doux, le plus timide des sourires, avant de baisser la tête comme un chat qui attend une caresse.
Mais elle va se défoncer, elle va faire « Madame, je m'applique à fond, donc c'est une bonne chose », a dit Bonnie.
« Comment ça s'est terminé, l'affaire Kayla Holman ?» ai-je demandé.
Elle a secoué la tête. « Non. »
Quatre autres femmes sont entrées, l'une derrière l'autre. Elles se passaient une bouteille de crème solaire et en enduisaient leurs bras et leurs épaules nues et leur nez. Une odeur de noix de coco s'est répandue dans la salle.
« Au fait, » a repris Bonnie, « vous vous rappelez quand je vous ai demandé si Amy avait des amis en ville, vous ne m'avez pas parlé de Noël Hawthorne ?»
Je lui ai jeté un regard vide.
« Noël de votre lotissement, celle qui a des triplés ?»«
Non, elles ne sont pas amies. »«
Ah, c'est marrant. Elle, elle a l'air persuadée qu'elle le sent. » »«
Amy, ça lui arrive souvent. Elle parle aux gens une fois et ils s'accrochent. C'est flippant. » »«
C'est ce qu'ont dit ses parents. »
J'ai hésité à l'interroger franchement sur Hillary Handy et Desi Collings. Puis j'ai décidé de m'abstenir. J'aurais meilleure allure si c'était moi qui menais la charge. Je voulais que Rand et Mary Beth me voient en mode héros de film d'action. Je ne parvenais pas à chasser de mon esprit ce regard que m'avait jeté Mary Beth.
La police a vraiment l'air de penser que ça vient de... pas loin.
Les gens s'imaginent qu'ils la connaissent parce qu'ils ont lu les livres quand ils étaient petits. Et je dis.
Ça ne m'étonne pas,
a approuvé Bonnie.
Les gens aiment bien s'imaginer qu'ils connaissent les autres. Les parents veulent croire qu'ils connaissent leurs enfants. Les femmes veulent croire qu'elles connaissent leurs maris.
Une heure plus tard, l'assemblée de volontaires commençait à ressembler à un pique-nique familial. Quelques-unes de mes anciennes copines sont passées me dire bonjour et me présenter leurs enfants. Une des meilleures amies de ma mère, Vicky, est venue avec trois de ses petites filles. Trois préados timides, vêtus de roses de pied en cap. Les petits-enfants. Ma mère parlait beaucoup de ses futurs petits-enfants, comme s'ils devaient arriver d'une minute à l'autre. À chaque fois qu'elle achetait un nouveau meuble, elle expliquait qu'elle avait choisi tel ou tel style parce que ça irait bien quand les petits-enfants seraient là. Elle voulait vivre assez longtemps pour voir ses petits-enfants. Toutes ses amies en avaient suffisamment pour ne plus savoir qu'en faire. Lorsque Amy et moi avions invité ma mère et Go à dîner pour les 6 mois du bar, j'avais annoncé que nous avions quelque chose à fêter. Et maman avait bondi de son siège, fondu en larmes, et pris Amy dans ses bras. Amy s'était mise à pleurer à son tour, en murmurant sous l'étreinte étouffante de ma mère. « Il parle du bar, seulement du bar !» Et là, ma mère avait fait semblant que ça l'enthousiasmait tout autant.
« Vous avez tout le temps pour faire des bébés !»
avait-elle dit de sa voix la plus réconfortante, une voix qui n'avait eu pour effet que de provoquer de nouveau les larmes d'Amy. Ce qui était bizarre, puisque Amy ne voulait pas d'enfant, et elle avait réaffirmé la chose à plusieurs reprises. mais ses larmes ont ouvert en moi une brèche d'espoir pervers. Peut-être est-elle en train de changer d'avis. Car nous n'avions pas tout le temps, en réalité. Amy avait 37 ans lorsque j'avais acheté le bar. Elle aurait 39 ans en octobre. Et là, j'ai pensé, il faudra qu'on organise un faux anniversaire, un truc comme ça, si cette affaire dure encore. Il faudra qu'on marque le coup d'une manière ou d'une autre, qu'on fasse une cérémonie pour les volontaires, les médias, quelque chose pour relancer l'intérêt. Il faudra que je fasse semblant de garder espoir.
« Le retour du fils prodigue !»
a dit une voix nasillarde. Et je me suis retourné sur un type maigrelet, en t-shirt distendu, qui grattait sa moustache à côté de moi. Mon vieil ami, Stux Buckley, qui avait pris l'habitude de me qualifier de « fils prodigue », bien qu'il soit infoutu de prononcer ce mot et ignore sa signification. Je pense qu'il y voyait un synonyme recherché de « connard ». Stux Buckley. On aurait dit un nom de joueur de baseball. Et c'est ce que Stux aurait dû être, sauf qu'il n'en avait jamais eu le talent. Juste un désir impérieux. Il était le meilleur joueur de la ville quand il était ado, mais ce n'était pas suffisant. Il avait eu le choc de sa vie à la fac lorsqu'il avait été viré de l'équipe, et après ça, les choses n'avaient cessé d'aller de mal en pis. À présent, c'était un fumeur de joint extrêmement lunatique qui vivotait de petits boulots. Il était passé quelques fois au bar pour essayer de demander du taf, mais il avait secoué la tête à toutes les tâches merdiques que je lui proposais. Il mordillait l'intérieur de sa joue irritée.
« Allez, mec, qu'est-ce que t'as d'autre? Tu dois bien voir autre chose !»«
Stux !» ai-je dit en guise de salut, attendant de voir s'il était d'humeur amicale ou pas. « Paraît que les flics salopent royalement l'enquête » a-t-il dit, fourrant ses mains sous ses aisselles. « C'est un peu tôt pour le dire. »«
Allez, mec, ces petites fouilles de tapette, ils font plus d'efforts quand il s'agit de retrouver le kleps du maire !»
Stux avait un coup de soleil sur le visage. J'ai senti la chaleur qu'il dégageait lorsqu'il s'est penché sur moi, soufflant une bouffée de listerine et de bonbons.
« Pourquoi est-ce qu'ils n'ont embarqué personne? Il y a de quoi faire en ville, et ils trouvent personne à embarquer? Pas un seul? Et les mecs de Blue Book? C'est ce que j'ai demandé à la femme flic. Et les mecs de Blue Book? Elle m'a même pas répondu. »
« C'est quoi le Blue Book? Un gang ?»«
Tous ces types qui se sont fait virer de l'usine Blue Book l'hiver dernier. Pas d'indemnité, que dalle. » Tu vois des fois les SDF qui errent en ville en bande avec l'air vraiment, vraiment en colère. C'est souvent des mecs de Blue Book.
Je te suis toujours pas. L'usine Blue Book?
Tu sais, l'imprimerie de River Valley en bordure de la ville. C'est eux qui faisaient les cahiers Blue Book que tu utilisais pour faire tes dissertes et tout ça à la fac.
Ah, je savais pas.
Maintenant, dans les facs, ils utilisent des ordinateurs, etc. Alors, bye bye les mecs de Blue Book.
Putain, la ville entière est en train de mettre la clé sous la porte, ai-je marmonné.
Les mecs de Blue Book, ils picolent, ils se défoncent, ils harcèlent les passants. En fait, ils le faisaient déjà avant, mais ils étaient toujours obligés de s'arrêter pour retourner au boulot le lundi. Maintenant, ils sont lâchés dans la nature.
Stux m'a fait un grand sourire, découvrant ses dents écaillées. Il avait des flocons de peinture dans les cheveux. Son boulot d'été, depuis le lycée. Peinture, ravalement, plomberie.
« Je suis spécialisé dans l'entretien des cavités, » disait-il,
et il attendait qu'on comprenne la blague. Si on ne riait pas, il l'expliquait.
« Alors les flics sont allés au centre commercial ?»
a demandé Stux. J'ai esquissé un haussement d'épaule incertain.
« Merde, mec, t'étais pas reporter avant ?»
Stux avait toujours l'air fâché contre mon métier d'avant, comme si c'était un bobard qui avait tenu trop longtemps.
Les mecs de Blue Book, ils se sont fait une jolie petite ville à eux à l'intérieur du centre. Ils squattent, ils dealent. Les flics les chassent une fois de temps en temps, mais systématiquement ils reviennent dès le lendemain. En tout cas, c'est ce que j'ai dit à la femme flic. Allez fouiller le centre commercial, putain! Parce qu'il y a des mecs parmi eux qui ont violé collectivement une nana là-bas, il y a juste un mois. Évidemment, tu mets ensemble une bande de mecs en colère, ça sent pas trop bon pour une nana qui leur tombe entre les pattes.